Boko Haram est toujours présent dans le Borno et le conflit persiste dans certaines parties. Mais disons que depuis la fin de l'année 2015, l'armée a repris les villes, a sécurisé les principales villes du Borno. Mais dans les campagnes, Boko Haram reste présent.
Donc ce que vous disiez aussi dans ce communiqué, c'est que pour accéder à ces villes, il faut être impérativement escorté par l'armée.
Tout à fait. Pour accéder aux villes périphériques, on y va uniquement avec des escortes armées. Pas toutes les villes périphériques. Certaines au nord et au sud de Maïdigouri, ce sont des checkpoints militaires sur la route, mais ça reste quand même des routes dangereuses. Et pour toutes les villes plus à l'est, ce sont des escortes militaires. Et c'est la plupart de ces villes qui ont été reprises par les militaires et où sont présentes aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de personnes. Ces villes sont encore régulièrement sujettes à des attaques de Boko Haram. Ils sont encore présents, ce sont des lignes de front en fait, ces villes.
MSF donc fait état d'une situation sanitaire qui est extrêmement grave. On parle de 500 000 personnes déplacées vivant dans des enclaves hors de Maïdougouri. Quelles sont vos principales préoccupations concernant leur santé? Qu'avez-vous vu sur place?
La première préoccupation, c'est la dénutrition, la malnutrition des enfants essentiellement. Cette malnutrition atteint des taux très élevés, 50% de malnutrition globale chez les enfants de moins de 5 ans, 15 à 20% des enfants qui ont développé des formes sévères. Mais on voit également certains cas de malnutrition adulte. Il y a une épidémie de rougeole en cours dans le Borno. La rougeole peut être une maladie banale, mais chez des populations dénutries, chez des enfants dénutris, ça entraîne des complications importantes et régulièrement le décès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vivent dans ces villes qui ont été récupérées par l'armée, elles n'ont plus accès aux soins depuis des mois et des mois, voire parfois même 2 ans. Donc elles sont très affaiblies, dénutries, des lésions cutanées, des diarrhées, voilà, et une mortalité très élevée dans les sites que l'on a visités.
Et quant à l'état justement de ces villes, je pense notamment à l'accès en eau potable, etc. Comment cela se passe sur place?
Alors l'accès en eau potable, l'eau n'est certainement pas suffisante en quantité, mais on a de la chance dans cette région et dans ces villages. Il y a beaucoup de puits qui ont été creusés, des puits assez profonds. Donc on n'a pas de problème majeur de la qualité de l'eau. Mais bon, il n'y en a pas assez. Les conditions de vie, par exemple dans la ville de Bamar, où nos équipes sont allées, on a des équipes pour le moment, les conditions de vie, elles sont très difficiles. Hein. Dans la ville de Bamar, il y a 10 à 15 000 personnes qui vivent dans l'enceinte d'un hôpital. Donc la ville de Bamar est complètement détruite, tout à fait vide. Il y a un camp militaire et il y a ce camp de déplacés qui est en fait l'hôpital. Donc c'est assez petit, 400 mètres sur 400 mètres. Donc les gens sont dans un espace étroit, ils se sont fabriqués des cabanes avec des tôles en fer qu'ils ont récupérées sur les toits des maisons détruites. Donc des petites cabanes comme ça en tôle métallique. Pas de latrine, des trous creusés comme ils peuvent dans cette enceinte. De l'eau, voilà, un puits avec quand même de l'eau, mais des conditions de vie extrêmes, quoi. Les pluies ont commencé, la saison des pluies commence, des pluies extrêmement fortes, qui veut dire, bon voilà, que les gens restent debout comme ça dans leur petite cabane, tout est trempé, on peut pas se coucher, etc. Donc dans cette ville-là, ont commencé depuis quelques semaines maintenant des distributions de nourriture, quelques distributions de tentes pour améliorer la situation, mais ça reste peu. Et c'est une ville qu'il faut rejoindre par une escorte armée pendant... il y a une heure de route sous l'escorte armée, quoi. Dans cette ville-là, on a pour le moment une petite équipe de 5 personnes qui est présente. On fait des consultations, quelques lits d'hospitalisation. Et on réfère tous les patients les plus sévères vers Maïdougouri. On travaille aussi sur l'eau pour augmenter la quantité d'eau. Ça, c'est la première étape de ce qu'on est en train de faire.
Et justement, à Maïdougouri, donc la capitale de l'État du Borno, les structures de santé sont saturées?
Alors oui, là, dans la capitale, il y a 1,4 million de déplacés environ, donc ça, plus du double de la population de la ville de Maïdougouri, déplacés qui sont arrivés les dernières années et qui arrivent encore aujourd'hui. Là, la situation de la population déplacée et on peut dire sous contrôle, dans le sens où il n'y a pas de mortalité majeure. Bon, malgré tout, les déplacés manquent quand même de beaucoup de choses. Un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, voilà, c'est ces lits d'hospitalisation. Et puis, avec ces zones, ces nouvelles villes, comme Bama dit quoi, que l'on peut atteindre, c'est quasiment impossible, c'est impossible aujourd'hui de mettre en place des hospitalisations à Bama, à Dikwa, par exemple. Quasiment impossible d'avoir suffisamment de staff médical qui accepte d'être présent dans ces villes. Donc, en fait, on organise des références vers Maïdigouri. Donc, tout ça surcharge les capacités hospitalières. Et ça, c'est un des angles importants de notre projet. C'est de mettre en place des lits d'hospitalisation, notamment pour les enfants atteints de malnutrition.
Alors, vous l'avez dit, la situation sécuritaire rend difficile l'apport d'aide. Est-ce que l'État nigérian aide les habitants de l'État du Borno? Est-ce qu'ils peuvent les aider alors qu'ils ne contrôlent pas tout à fait cette région?
Les autorités nigériennes, les autorités du Borno ont bien conscience de la sévérité de la situation. C'est le gouverneur de Borno lui-même qui était allé à Bama, qui avait décidé de faire sortir de Bama environ 1200 personnes, de les ramener vers Maïdigouri, parce que ces personnes avaient besoin de santé, étaient dans des états assez mauvais. Donc il était rentré avec ces 1200 personnes, on avait trouvé 39% de malnutrition chez les jeunes enfants, ce qui était énorme. L'armée est extrêmement mobilisée pour permettre et faciliter l'assistance vers les différentes villes. Donc, que ce soit dans Maïdigouri ou dans les villes périphériques, disons que l'assistance se met en place et il y a un vrai effort pour permettre le déploiement. Ceci dit, il y a une zone d'ombre, ce sont toutes les populations qui vivent dans les villages pour lesquelles personne n'a accès. On n'a pas grande idée de l'état de santé dans lequel elles sont. On est inquiet parce qu'on voit arriver, par exemple, à Maïdigouri et elles arrivent pas en très bonnes conditions. Elles rapportent des grosses difficultés d'accès à la nourriture et une insécurité qui persiste. Quoi.
Peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant cette mission au Nigeria, dans l'état du Borno?
Les conditions de vie dans les sites comme Bama, le fait que les gens soient regroupés comme ça sur des petits espaces, c'est impressionnant. Les taux de malnutrition très élevés, ça fait moi j'avais jamais vu des taux aussi élevés. Et un autre point, c'est que dans les sites de déplacés, il y a quasiment que des femmes et des enfants. On ne voit aucun jeune homme. Il y a plus de jeunes garçons après l'âge de 10 ans. Il y a des garçons plus jusque 10 ans. Après, toute cette tranche, toute cette partie de la population a disparu. Quoi. Puis on a envoyé une autre équipe dans une ville qui s'appelle Dikwa, où il y aurait environ 70 000 personnes dans des conditions un peu similaires à Bama. La même chose, une route uniquement sous escorte armée, des distributions de nourriture, mais pas d'accès aux soins et pas de contact avec Maïdigouri. Et puis, on a envoyé une équipe aussi dans une troisième ville, Mongono, qui est une ville au nord où il y a 200 000 personnes, dont la moitié doivent être des populations déplacées. Cette ville, on la rejoint non pas par escorte armée, mais par une route sur laquelle il y a 7 à 10 checkpoints militaires. Et dans cette ville-là, quelques organisations commencent à arriver. Le CICR fait des distributions de nourriture. Et donc, nous, on a décidé de se concentrer sur l'hôpital pour relancer, avec le ministère de la Santé, l'hôpital qui n'est plus fonctionnel depuis un an et demi. Donc, depuis un an et demi, cette population de Mongono n'a aucun moyen de se faire soigner, quasiment aucun moyen de se faire soigner. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y avait encore aujourd'hui extrêmement peu d'acteurs, en fait, qui essayaient de rejoindre ces villages. Il y en a. Particulièrement le CICR, la Croix-Rouge nigériane, une organisation étatique d'urgence qui s'appelle la SEMA, l'UNICEF. Mais c'est encore trop peu et il y a un grand absent, en fait, c'est le Programme alimentaire mondial qui vient juste d'arriver à Maïdigouri, mais qui aujourd'hui ne distribue pas encore des vivres. Donc ça va arriver. Et ça, c'est un des points cruciaux parce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui, le manque de nourriture, d'accès à la nourriture.